Donc Valérie Zenati, alors je vais d'abord juste dire un tout petit mot sur Aaron Appelfeld. Valérie va nous en parler toute la soirée. Donc Aaron Appelfeld est un des plus grands écrivains juifs de langue hébraïque de notre temps. Il est mort en 2018 et Valérie Zenati est sa traductrice. Elle est également auteure. Elle a écrit plusieurs livres pour la jeunesse, dont le très remarqué « Une bouteille dans la mer de Gaza », qui a été porté à l'écran et adapté au théâtre. Elle a écrit également des romans adultes, 6 romans, dont Jacob Jacob, qui a reçu le prix, alors je ne me rappelle plus, elle a reçu tellement de prix, Valérie, donc c'est le prix du livre Inter, en 2014. Elle est la traductrice de Aaron Appelfeld. Tous ses livres n'ont pas encore été traduits, donc elle continue à traduire son œuvre. Et elle était également son amie. Elle raconte dans Le faisceau des vivants la relation amicale et littéraire qui les liait. Et donc, vous trouverez ce livre d'ailleurs à la dédicace. Vous avez sur la table l'ensemble des livres qui seront dédicacés. Je vous invite à la fin de la conférence donc, à rester tranquillement assis pour échanger notamment sur ce qui aura été dit. Et donc, parmi les livres... nous remarquons donc Histoire d'une vie d'Aaron Appelfeld qui a eu donc le prix Médicis étranger. Et puis j'attire votre attention aussi sur Adam et Thomas, qui est un livre jeunesse de 9 à 77 ans et qui a reçu le prix du meilleur album jeunesse par le magazine Lire. Donc je ne me rappelle plus exactement de la date de parution, vous la trouverez sur le livre. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je voulais juste remercier le Centre culturel Jean Villard qui nous prête sa salle aujourd'hui. Nous remercions la régie, Mathieu, et nous dédions particulièrement cette soirée à notre amie Christine. Voilà, vous pouvez éteindre vos téléphones portables. J'ai toujours rêvé de dire ça sur scène. Et puis, ceux qui ont des difficultés à entendre, ils peuvent brancher leur appareil audio sur T. Il existe une boucle qui permet d'écouter avec confort la conférence. Voilà, bienvenue Valérie Zenati, nous l'applaudissons très fort.
Alors, bonsoir à tous et merci beaucoup, beaucoup d'être là, les jeunes et puis les un tout petit peu moins jeunes, pour partager une soirée autour d'un écrivain qui est, c'est pour ça que je me retourne, voilà, et que je vois cette photo. Un écrivain, moi j'ai tendance à dire que avant d'être quelqu'un qui écrit, qui pratique l'écriture, un écrivain c'est un regard, c'est d'abord un regard et puis une voix. Et ce soir, j'espère parvenir à vous faire découvrir le regard et la voix d'Aaron Appelfeld. Et si je me retournais, c'était pour voir voilà, cette photo qui est une des photos qui le représente, je crois, le mieux, avec un regard extrêmement perçant, doux, mais qui pouvait aussi se faire dur. Un regard d'une grande, grande, grande curiosité à l'égard des êtres humains. Et ça sera l'objet d'une grande partie de ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Voilà, j'ai pas envie de nommer ça pompeusement conférence, mais je vais essayer de vous raconter quelques histoires, en quelque sorte, et donc vous faire partager ce regard et cette voix. Alors, pour situer, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Aaron Appelfeld et son œuvre, et c'est important de situer dans le lieu et dans le temps, et encore plus aujourd'hui, parce que vous allez voir à quel point les livres, les extraits que je vais vous lire, et même la vie et l'œuvre d'Aaron Appelfeld résonnent avec notre époque et avec ce qui se passe précisément depuis quelques semaines. Parfois, on fait des liens un peu fabriquer entre un livre et la réalité, entre le passé et le présent. Là, le lien est bien réel et vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Parce que quand Aaron Appelfeld faisait une rencontre ou donnait une interview, il y avait quelque chose d'assez beau et curieux qui se passait. Quelle que fût la question qui lui était posée, il commençait toujours par répondre « Je suis né à Tchernovitz en 1932 ». Voilà. On pouvait lui avoir posé une question sur l'influence de Proust pour lui, sa langue maternelle et sa langue d'adoption, comme on verra. On pouvait lui poser des questions sur son dernier livre, sur la politique peut-être d'Israël où il vivait. Il répondait d'abord « Je suis né à Tchernovitz en 1932 ». Et cet entêtement à poser là une date et un lieu est très importante parce que ce lieu que lui appelait Tchernovitz, c'est une ville qui a fait partie de l'Empire austro-hongrois quand ses parents sont nés au début du XXe siècle. Et puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, c'est une ville qui s'appelait Tchernauti et qui était en Roumanie. Et puis, enfin, la ville ne bougeait pas, mais les frontières bougent. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, cette ville est devenue Tchernivtsi et se trouve en Ukraine. Et donc, il y a cette résonance qui a plus d'un écho pour moi de cette ville ukrainienne, Tchernovitz, que moi, je continue d'appeler Tchernovitz, où est né Aaron Appelfeld et que je vous ferai découvrir, vers laquelle j'ai envie de vous emmener à travers ce moment. On parviendra à Tchernovitz. Mais avant cela... Alors, je m'aperçois qu'il me manque juste un livre que j'ai mis de côté. Je vais me lever pour le prendre, pardon. Voilà, on est dans des conditions du direct. Avant cela même et avant de vous donner des éléments autobiographiques plus précis, je voudrais vous lire le début d'un livre qui est le dernier livre paru d'Aaron Appelfeld. Le prochain paraîtra dans 3 semaines à peu près. Je voudrais vous lire le début de son dernier livre à ce jour, paru en français, qui s'appelle « Mon père et ma mère » et qui dévoile quelque chose du rapport qu'avait Aaron Appelfeld à l'écriture et à l'enfance aussi et à ce qui le nourrit. « Sur mes chemins d'écriture, je retourne sans relâche dans la maison de mes parents, en ville, ou celle de mes grands-parents dans les Carpates, ainsi que dans les lieux où nous avons été ensemble. J'ai dit « je retourne », mais je voudrais aussitôt me corriger. Je suis toujours dans ces maisons, même si elles n'existent plus depuis longtemps. Ce sont mes lieux inébranlables, des visions qui m'appartiennent et dont je m'approche pour les vivifier. Il est des jours où cette nécessité se fait plus pressante encore, à cause de la fatigue, de la mélancolie ou d'un sentiment d'effondrement. La plupart du temps, le retour à la maison est une joie qui s'accompagne d'une vive émotion. J'ai habité de nombreuses maisons tout au long de ma vie, mais la nostalgie que j'ai de celle de mes parents ne m'a jamais quittée. Il y a les jours où je m'y installe et ceux où je prends le large vers celle de mes grands-parents. Le vivier qu'elles m'offrent toutes deux est inépuisable. Les deux maisons sont en apparence telles que je les avais laissées. Il n'en est rien pourtant. Les années ont éliminé le provisoire et le superflu pour ne garder que l'enfant qui s'étonnait de ce qui se passait autour de lui et en lui et s'en étonne encore. Un regard d'enfant est indispensable à tout acte créateur. Lorsque vous perdez l'enfant qui est en vous, la pensée s'encroûte, effaçant insidieusement la surprise du premier regard. La capacité créatrice diminue. Plus grave encore, sans l'émerveillement de l'enfant, la pensée s'encombre de doutes. L'innocence bat en retraite. Tout est examiné à la loupe. Tout devient contestable. Et l'on se sent contrarié d'avoir simplement aligné des mots. Alors, j'ai souhaité en préambule vous lire cet extrait, ce début, ce sont les tout premiers mots de mon père et ma mère, parce que ce qui apparaît d'emblée, je crois, c'est la question de la perte et la question de l'enfance. Et la perte et l'enfance sont, en quelque sorte, les piliers, même si la perte peut être difficilement un pilier, puisque elle laisse un vide. Mais malgré tout, la perte et l'enfance sont les deux piliers sur lesquels l'œuvre d'Aaron Appelfeld est construite. Pourquoi l'enfance? Pourquoi la perte? Parce que ce qui a été perdu, c'est précisément tout ce qui était son enfance. Je le disais, il est né à Tchernovitz en 1932, dans une ville qui ressemble, pour ceux qui y sont allés, qui peut rappeler Vienne ou Prague, puisqu'elle est typiquement austro-hongroise. Donc elle peut rappeler voilà, Vienne, Prague, peut-être un petit peu Budapest ou Bucarest, toute cette Europe de l'Est qui moi, m'est très chère. Et donc, il est né dans ce lieu, dans une famille juive assimilée, ce qui signifiait que ses parents n'étaient ni croyants ni pratiquants. Ils avaient délaissé la foi et la pratique religieuse. Et d'ailleurs, il racontait que le jour de Kippour, qui est le jour le plus solennel dans la tradition juive, qui n'est pas une fête, mais plutôt un grand jour de gravité, où chaque être doit penser aux erreurs qu'il a pu commettre, aux promesses qu'il n'a pas tenues et aux offenses qu'il a pu faire, et qui est un jour de jeûne et de prière. Ce jour-là, ses parents ne jeûnaient pas, ne priaient pas, mais ils tenaient quand même à ne pas vivre tout à fait comme le reste du temps, et ils s'enfermaient chez eux pour lire « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, en français, parce qu'il lisait parfaitement le français. Donc il est né dans cette famille qui avait un grand idéal européen. Un idéal européen, dans ces années-là, ça signifiait, on était donc après la Première Guerre mondiale, ça signifiait une Europe où les peuples pourraient à la fois vivre de manière libre et fraternelle, avec un grand sens de l'égalité. Ce sont des années aussi où le socialisme ou le communisme étaient des aspirations, des utopies, des désirs qui n'étaient pas purement politiques, qui étaient des désirs tout simplement de vie et de rapport entre les humains. Donc il est né dans cette famille-là, il a été extrêmement choyé, il rappelait souvent qu'il était fils unique, et j'ai toujours eu le sentiment qu'il en tirait une certaine satisfaction d'avoir été le seul enfant de ses parents, extrêmement aimé par sa mère. Et il a eu 8 ans au moment où la guerre a éclaté. Donc 1940, 41 pour l'invasion allemande dans ces territoires-là. La guerre éclate et en quelques jours, il perd tout ce qui est sa vie. L'appartement dans lequel il vit avec ses parents, son train électrique, le violon qu'on venait de lui offrir parce que ses parents souhaitaient qu'il étudie le violon, la domestique qui s'occupait de lui, les beaux rideaux qu'il évoque dans Histoire d'une vie, que je vous lirai un peu plus tard. Il perd son école, ses camarades d'école, sa ville. Il perd sa mère qui lui lit tous les soirs des histoires. Sa mère est assassinée dès le début de la guerre. Et il est déporté avec son père dans un camp en Transnistrie. Alors là aussi, je pense que peu de gens entendaient parler de la Transnistrie, mais on en parle un peu plus ces temps-ci, donc qui est toute proche de ce qui est un territoire ukrainien. Il est donc déporté dans un camp, alors qui n'est pas un camp comme ce qu'on peut imaginer des camps de la Seconde Guerre mondiale. En général, quand on dit camp, on pense souvent au camp d'Auschwitz, qui était gigantesque et où ont péri plus d'un million de gens et qui était vraiment une sorte d'usine de la mort avec des barbelés, des miradors et un réseau de gardiens extrêmement qui ne laissait aucune possibilité d'évasion. Lui est déporté dans un camp de Transnistrie qui sont des camps plus petits, et je fais cette précision parce que dans ce camp, il se retrouve séparé de son père. Et là, il comprend intuitivement qu'il doit fuir. Donc, il s'enfuit. Il fuit le camp. Et il a à ce moment-là à peu près 11 ans, 12 ans, et il commence à errer dans la forêt. Et jusqu'à la fin de la guerre, il va vivre dans la forêt, parfois en dormant à même la terre, sous les arbres, en se nourrissant de ce qu'il trouve, de fruits des bois, de champignons, en buvant l'eau du ruisseau. Et puis à certains moments, il va être recueilli par des paysans auxquels il se présente comme un Ukrainien, il ne leur dit pas qu'il est juif, et qui le prennent comme garçon de ferme, qui le battent parfois, qui l'exploitent, mais en tout cas, qui lui donnent le gîte et le couvert, comme on dit. Il sera recueilli aussi, et ça c'est très important dans sa vie et dans son œuvre aussi, par une prostituée du nom de Maria. Et ça a donné lieu à un livre très très beau qui s'appelle « La chambre de Mariana ». Et chez cette prostituée, il découvre à la fois le sexe, qu'il ne connaît pas encore, puisqu'il est tout jeune, et il dort derrière une cloison, il entend des bruits, et c'est par de cette manière-là qu'il comprendra ce qui peut exister entre un homme et une femme. Et il est aussi, à certains moments, recueilli par des voyous, des bandes de voyous, parce que même en temps de guerre, il existe des voleurs ou des assassins, et en particulier une bande de voleurs de chevaux. Et ces expériences-là, de la solitude dans la forêt, du contact avec une prostituée, des paysans, des voleurs, ont été pour lui ce qu'il appelle l'école de la vie. Il soulignait souvent qu'il n'est allé qu'un an à l'école, parce que l'école commençait à 7 ans. Enfin, dans ces régions-là, elle commence encore aujourd'hui à 7 ans dans certains pays. L'école commençait à 7 ans et à 8 ans, la guerre a éclaté. Donc, Aaron Appelfeld, c'est quelqu'un qui est allé un an à l'école et qui considérait que ces années-là avaient été une école de la vie pour lui. Une école de la vie parce que c'est dans ces années de solitude absolue où il ne voulait pas croire à la disparition de ses parents, il ne voulait pas croire qu'il ne les reverrait jamais, alors qu'il avait entendu sa mère mourir. Dans ces années de solitude absolue, il a observé, il a passé son temps à observer les gens qui l'entouraient pour essayer de comprendre à qui il avait affaire. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui un instinct, et je pense, il le dit lui-même, qu'il a eu une sorte d'instinct animal. Un instinct animal qui lui disait que le danger pouvait parfois être invisible, que le danger n'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait décrypter par les mots qui étaient dits ou prononcés, mais qu'il fallait plutôt observer le visage de la personne qui faisait face et essayer de comprendre ce que ce visage exprimait, ce qu'une démarche exprimait, ce qu'un geste pouvait exprimer. Est-ce que c'était un geste qui disait « ne t'inquiète pas, je suis là et je vais te sauver la vie en te donnant une tranche de pain » ou est-ce que c'était un mouvement du corps qui disait « ne bouge pas, je vais aller te dénoncer aux gendarmes » Et donc, il a, durant ces années, alors je pense qu'il avait déjà cette sensibilité très forte, enfant, cette sensibilité aux autres, au regard des autres, aux attitudes, mais il l'a eu et c'est là qu'il a puisé profondément, je crois, son rapport aux gens, à ceux qui l'entouraient, et aussi son rapport à ses personnages. Alors, pour vous donner un exemple de sa façon d'observer les autres, j'ai choisi de vous lire, peut-être juste avant d'ailleurs, pour être dans la continuité d'abord de la mémoire, parce que la mémoire est ce qui lui a permis de survivre d'une certaine manière. Je vais d'abord vous lire un extrait d'Histoire d'une vie, donc le tout début, sur la question de la mémoire et des sensations. Et ça nous permettra d'aller vers sa façon de regarder les autres. Où commence ma mémoire? Parfois, il me semble que ce n'est que vers 4 ans, lorsque nous partîmes pour la première fois, ma mère, mon père et moi, en villégiature, dans les forêts humides et sombres des Carpates. D'autres fois, il me semble qu'elle a germé en moi avant cela, dans ma chambre, près de la double fenêtre ornée de fleurs en papier. La neige tombe et des flocons doux, cotonneux, se déversent du ciel. Le bruissement est imperceptible. De longues heures, je reste assis à regarder ce prodige. jusqu'à ce que je me fonde dans la coulée blanche et m'endorme. Donc là, on est vraiment dans les premières sensations, les premiers émerveillements aussi. Je ne connais pas quelqu'un qui ne ressent pas une sorte d'émerveillement devant la neige qui tombe. Je ne connais personne, à vrai dire, qui n'a pas un étonnement quand il neige, quand la neige commence à tomber, que les flocons se déversent. Et donc ça, c'est le premier souvenir donc d'un moment encore très doux de l'enfance. Et ensuite, pour illustrer ce que je viens de vous dire sur sa façon d'observer les gens et les êtres, d'abord, voilà, son entrée dans la forêt, je vais vous lire le deuxième passage, et puis ensuite, je vous lirai un passage sur les fous dans le ghetto. Plus de 50 ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le cœur a beaucoup oublié, principalement des lieux, des dates, des noms de gens. Et pourtant, je ressens ces jours dans tout mon corps. Chaque fois qu'il pleut, qu'il fait froid, ou que je souffle, ou que souffle un vent violent, je suis de nouveau dans le ghetto, dans le camp, ou dans les forêts qui m'ont abrité longtemps. La mémoire, s'avère-t-il, a des racines profondément ancrées dans le corps. Il suffit parfois de l'odeur de la paille pourrie ou du cri d'un oiseau pour me transporter loin et à l'intérieur. Je dis à l'intérieur, bien que je n'ai pas encore trouvé de mots pour ces violentes taches de mémoire. Au fil des années, j'ai tenté plus d'une fois de toucher les chalits du camp et de goûter à la soupe claire qu'on y distribuait. Tout ce qui ressortait de cet effort était un magma de mots, ou plus précisément, des mots inexacts, un rythme faussé, des images faibles ou exagérées. Une épreuve profonde, ai-je appris, peut être faussée facilement. Cette fois non plus, je ne toucherai pas ce feu. Je ne parlerai pas du camp, mais de la fuite qui eut lieu à l'automne 1942, alors que j'avais 10 ans. De mon entrée dans la forêt, je ne me souviens pas. Mais je me rappelle l'instant où je me suis retrouvée là-bas, devant un arbre couvert de pommes rouges. J'étais si stupéfait que je fis quelques pas en arrière. Mon corps se souvient mieux que moi de ces pas. Chaque fois que je fais un faux mouvement du dos ou que je recule, je vois l'arbre et les pommes rouges. Cela faisait plusieurs jours que je n'avais pas mangé. Et voici que se dressait devant moi un arbre couvert de fruits. Je n'avais qu'à tendre la main pour les cueillir, mais je restais debout, paralysée par la surprise. Et plus je restais ainsi, plus la paralysie augmentait. Finalement, je m'assis et mangeai une petite pomme à moitié pourrie qui était tombée au sol. Puis je m'endormis. À mon réveil, le ciel rougeoyait déjà. Je ne savais que faire et me mis à genoux. J'ai encore aujourd'hui la sensation de cette position et chaque fois que je m'agenouille, je me souviens du coucher de soleil qui rougeoyait entre les arbres et j'ai envie de me réjouir. Donc je vous ai lu ce passage d'abord parce que, comme j'ai évoqué déjà la fuite du camp et les années dans la forêt, Je tenais à dire que même si la conférence, cette rencontre parle de l'humanisme, chez Aaron Appelfeld, la question de la nature est centrale. La nature comme refuge, comme possibilité d'être abrité, d'être nourri, qui peut être aussi une menace, mais qui est d'abord une sorte de miracle en soi. C'est-à-dire que je crois que seul celui qui a eu extrêmement faim et qui a failli mourir de faim et celui qui a failli mourir de soif peut ressentir la beauté de ce que peut donner la nature à travers un ruisseau ou comme ici un pommier. Et ça, c'est très important parce que dans cet émerveillement qu'a Aaron Appelfeld face à la nature, il y a aussi une interrogation qui est celle de la conduite des hommes qui peut être aussi bonne que la nature, quand les hommes donnent, mais qui peut être encore plus destructrice parfois. Et Et je ferai remarquer aussi que dans ce passage-là, il y a une sorte de, comment dire, de regard émerveillé, y compris, on parle du chaos, je voulais parler du chaos, y compris dans un moment qui nous semble un moment inhumain. Sortir d'un camp, on peut imaginer que quelqu'un qui sort d'un camp est totalement détruit à l'intérieur de lui-même. Et chez lui, il y a ce sursaut face à une sorte de solitude, mais qui est protégée par la nature. À l'opposé de ça, à l'opposé de cette scène où il est seul face au pommier et au ruisseau, il y a une autre scène que je voulais vous proposer pour parler justement de son regard sur les êtres et de cette façon très particulière qu'il a eue de regarder les gens autour de lui dans ces années-là, mais aussi toute sa vie. Et quand je dis toute sa vie, je poursuivrai bien sûr sur l'évocation de sa vie après la guerre, mais pour l'instant, on va rester dans ces années de guerre. Donc là, on est aux alentours de 1941, et il nous dit ceci, des fous précisément, des fous dans le ghetto. Dans le ghetto, les enfants et les fous étaient amis. Tous les repères s'étaient effondrés. Plus d'école, plus de devoirs, plus de lever le matin, ni d'extinction des feux la nuit. Nous jouions dans les cours, sur les trottoirs, dans des terrains vagues et de multiples endroits obscurs. Les fous se joignaient parfois à nos jeux. Eux aussi avaient tiré profit du chaos. L'hospice et l'hôpital psychiatrique avaient été fermés. Et les malades, livrés à eux-mêmes, erraient dans les rues en souriant. En dehors du sourire lui-même, il y avait en eux quelque chose d'une joie maligne, comme s'il disait « Toutes ces années, vous vous êtes moqués de nous, car nous mélangions un sujet et l'autre, un temps et l'autre. Nous n'étions pas précis. Nous désignions les lieux et les objets par d'autres noms. À présent, il est clair que nous avions raison. Vous ne nous avez pas cru. Vous étiez si sûr de votre bon droit et vous nous méprisiez. Vous nous avez envoyés dans des hospices et vous nous avez enfermés derrière des portes verrouillées. Il y avait quelque chose d'effrayant dans le sourire joyeux des fous. Ils fêtaient leur liberté de différentes façons. Ils s'asseyaient en tailleur dans le parc, chantaient, et les plus jeunes faisaient des compliments aux adolescentes et aux jeunes femmes. Mais la plupart du temps, ils restaient assis sur les bancs des jardins et souriaient. Ils considéraient les enfants comme leurs égaux. Ils s'asseyaient en tailleur et jouaient aux osselets, aux dominos, aux échecs, aux ballons et même au football. Des parents apeurés sortaient de leurs gonds et s'en prenaient à eux. Les fous avaient appris à les reconnaître et ils décampaient à temps. Il y avait parmi les fous des méchants et des dangereux qui se jetaient sur nous avec fureur. Nous aussi, nous avions appris à les reconnaître et nous les fuyions. Cependant, la plupart d'entre eux étaient calmes et polis. Ils parlaient de façon cohérente et pour certains, il n'était même pas manifeste qu'ils fussent fous. On pouvait leur poser des questions portant sur le calcul, la géographie ou les livres de Jules Verne. Certains étaient médecins, avocats ou des fortunés dépossédés de leurs biens par leur descendance. Parfois, un fou interrompait le jeu pour nous parler de sa femme et de ses enfants. Il y avait aussi parmi eux des pieux qui priaient, faisaient des bénédictions et tentaient de nous les enseigner. J'aimais les observer. Leur visage était extrêmement expressif. Ils aimaient jouer, mais ne savaient pas gagner. Nous étions meilleurs qu'eux. En constatant leur défaite, ils éclataient de rire, comme pour dire « Même les minus sont meilleurs que nous ». Il est vrai que chez certains fous, l'échec provoquait la colère. Ils jetaient alors les éléments du jeu ou s'agitaient. Mais c'était une minorité. La plupart acceptaient de perdre avec le sourire, résignés. Il arrivait qu'un malade mental se déchaîne dans la rue, frappe ou morde. On appelait aussitôt la police du ghetto. Cette dernière ne le ménageait pas, et pire encore, les policiers ramenaient tous les fous à l'hospice, d'où ils étaient libérés après un jour d'enfermement. Nous les invitions alors à jouer aux échecs ou aux dominos. Étrangement, ils n'avaient pas de rancœur à l'égard des policiers ou des gens qui les avaient livrés à la police. J'aimais observer leurs attitudes, la façon dont ils tenaient une assiette, rompaient le pain. Il arrivait qu'ils s'endorment dans le parc, recroquevillés, comme s'ils n'étaient pas des adultes, mais des enfants fatigués par les jeux. Alors, ce passage raconte pour moi quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous êtes peut-être parmi les personnes plus proches de mon âge, mais peut-être parmi vous aussi, nos invités lycéens. Vous avez peut-être lu déjà des livres qui racontent la guerre, qui racontent des histoires de gens qui ont traversé la guerre d'une manière ou d'une autre. Là, je parle de la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité, on dit la guerre, mais on pourrait dire les guerres, parce que il y a eu en quelque sorte plusieurs guerres entre 1939 et 1945. Ce que raconte Aaron Appelfeld là, c'est ce qui se passe en Ukraine en 1941. En 1941, en France, il se passe des choses tout à fait différentes, avec une autre situation politique, avec la collaboration du gouvernement de Vichy, avec la résistance, avec aussi d'autres paysages et d'autres conditions géographiques. Et les paysages et la géographie sont très importants en temps de guerre, pas seulement pour les armées, mais pour qui veut se cacher, pour qui veut survivre. Et donc, je fais cette parenthèse pour dire voilà, que ce sont presque plusieurs guerres qui ont eu lieu en Europe à ce moment-là. Mais quand on a lu ou vu des films sur la guerre ou lu des récits, très souvent, on nous raconte de manière assez frontale la cruauté, la torture, les actes de courage aussi ou d'héroïsme, de résistance. On nous raconte dans des récits comme celui de Primo Levi, Si c'est un homme, ou dans les livres de Charlotte Delbault, que je vous encourage vivement, vivement à lire. Charlotte Delbault, c'était la secrétaire d'un comédien qui s'appelle Louis Jouvet, qui s'appelait Louis Jouvet. Et c'est une jeune française communiste qui a été déportée et qui a livré un récit très puissant sur l'année qu'elle a passée au camp d'Auschwitz. Et donc, dans tous ces récits, on a vraiment des scènes cauchemardesques qui sont décrites. Et dans les films aussi, c'est ce qu'on voit ou c'est ce qu'on devine. Et Aaron Appelfeld a la particularité de ne pas raconter ça. Il part de ces années-là, mais il reste d'une certaine manière à hauteur d'enfant. Et à hauteur d'enfant, ça veut dire ne pas comprendre les enjeux, comme on dit aujourd'hui, de ce qui est en train de se passer. Les livres d'Aaron Appelfeld ne sont pas des romans historiques. Parce qu'il le dit lui-même dans Histoire d'une vie, j'ai oublié les dates, les lieux. Un enfant n'est pas capable de décrypter ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, un enfant ukrainien qui se trouve dans la situation de quitter du jour au lendemain sa maison, son école, tout ce qu'il a connu, son jardin, son cours, son jardin, le jardin où il joue, ses camarades, ses cours de danse ou de musique, ses grands-parents. Un enfant qui se trouve dans la situation où il doit quitter tout ça ne comprend absolument pas, ne sait pas qui est Vladimir Poutine, qui sont les Russes, qui sont les Ukrainiens, ce qui est la guerre, ce qui est une arme nucléaire. Il ne sait pas tout ça. Et donc, il reçoit la réalité de manière beaucoup plus frontale, avec ce que ses yeux voient, ce qu'il perçoit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, mais pas ce qu'il sait des données géopolitiques. Et à vrai dire, et c'est pour ça que dans le premier passage que je vous ai lu de Mon père et ma mère, Aaron Appelfeld dit « Un regard d'enfant est nécessaire à tout artiste », c'est parce qu'en réalité, nous, les adultes, bon, bien sûr, on ressent le besoin de s'informer. On dit on veut comprendre. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe, en réalité? Personne ne comprend ce qui se passe. Et Aaron Appelfeld, qui a vécu ce moment de chaos, de la guerre ou de plusieurs guerres, où du jour au lendemain, des gens sont persécutés, identifiés avec un signe qui est l'étoile jaune en France ou le brassard en Pologne avec une étoile bleue. Des gens sont parqués dans des camps, déportés, exterminés. Quand des gens sont emprisonnés pour une opinion politique, quand des gens sont fusillés, des otages sont fusillés dans la population française, par exemple, ou autre, dès qu'un officier allemand est tué, quand on tue 100 personnes, prises au hasard, des gens qui travaillaient, ou qui étaient malades, ou qui étaient en train de rêver à l'après-guerre, quand ce genre de chaos, quand tout se renverse, en réalité, et c'est ce que nous dit ce passage, les seuls à être dans le vrai, peut-être... Alors, encore une fois, hein, c'est pas une conférence qui veut donner des... Enfin, c'est pas une discussion qui porte sur l'histoire, qui est par ailleurs une matière que j'aime beaucoup. Mais là, on parle de la littérature. Le seul regard qui peut rendre compte du chaos, de ce qui est la guerre, de ce qui est l'arrachement à une vie, ce sont les enfants et les fous. Les fous parce que, et c'est ce qu'il nous dit là, ils n'étaient peut-être pas si fous. On considère comme fou quelqu'un pour qui le monde est un désordre permanent. Hein, il dit, voilà, on nous reprochait de confondre les temps, de dire un mot pour un autre. Or, dans le chaos, le langage même devient un instrument du chaos humain. Par exemple, et là, ça m'amène au fil suivant de l'écriture d'Aaron Appelfeld. Quand il écrivait, il disait... quand il a commencé à écrire, il a dit cette phrase qui m'a frappée quand je l'ai rencontrée et que j'ai mis du temps à comprendre. Parce qu'il a dit, moi, je me méfie des mots. J'écris, mais je me méfie des mots et je préfère le silence aux mots. Alors, on peut se dire... C'est un peu étrange pour un écrivain de dire ça. On a plutôt tendance à considérer que les écrivains sont des gens qui aiment profondément les mots, qui aiment les agencer, qui aiment jouer avec, qui aiment surprendre avec, et qui parfois essaient d'employer des mots peut-être un peu rares, qui vont surprendre, qui vont peut-être impressionner. Mais c'est rare d'entendre un écrivain qui dit « Je me méfie des mots et je préfère le silence aux mots ». Mais pourquoi se méfiait-il des mots ? Parce qu'il disait très simplement que pendant la guerre, il a très vite compris que le langage pouvait être facilement mensonger, que les mots peuvent mentir, alors que le silence, lui, ne ment pas. Et il disait qu'il y a plusieurs qualités de silence. Le silence, c'est pas juste ne rien entendre. C'est pas ça, en réalité, un silence. Et il paraît d'ailleurs qu'en général, même quand on dit « c'est le silence », et la personne qui s'occupe du son ici, je pense, pourrait nous expliquer ça mieux que moi, je pourrais le faire, le silence n'est jamais absolu, sauf dans un studio, peut-être d'enregistrement, dans des circonstances acoustiques particulières. Un silence, ça peut être un silence complice, un silence de connivence. C'est quelqu'un dit quelque chose, et puis deux personnes se regardent et se taisent. Ils partagent le même silence, et ils se sont compris. Ils n'ont pas eu besoin de dire un mot. Un silence peut être un silence d'amour, entre deux personnes qui s'aiment et qui n'ont besoin de rien dire. C'est un silence qui contient justement toute la joie d'être ensemble. Il y a aussi des silences qui sont des silences d'impuissance. Quand on pose une question à quelqu'un, qu'on lui demande peut-être de l'aide ou une explication et qu'il se tait, ce silence va être un silence d'impuissance. Et en général, les silences sont difficiles. Enfin, on peut les interpréter aussi, mais on ne peut pas, quand on se tait, on ne peut pas mentir. Ce n'est pas un mensonge qui est délivré. Alors que les mots, il le disait, aussi bien pendant la guerre, du côté de la propagande nazie ou du côté des soviétiques, était utilisé pour le mensonge, c'est-à-dire la propagande. Il citait notamment la phrase qui était inscrite à l'entrée du camp d'Auschwitz, en allemand, « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Voilà, c'était la phrase qui était là, comme un slogan à l'entrée d'un camp d'extermination qui dit « le travail rend libre ». Ça n'a aucun sens de dire « le travail rend libre » dans un endroit où on tue des gens. Le mensonge, la propagande, utilise les images, mais aussi les mots, le langage. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles il se méfiait des mots, c'était celle-là. La deuxième raison, et là, ça me permet d'avancer un tout petit peu dans sa biographie, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il a donc survécu dans la forêt, en étant protégé par une prostituée, avec des voyous, des voleurs, etc. Mais après-guerre, il s'est retrouvé donc... seul en Ukraine, sa mère était assassinée et il avait perdu la trace de son père. Il avait à ce moment-là 13 ans quasiment, 12-13 ans, et il n'avait plus où aller. Il a été emmené, comme beaucoup d'orphelins, à travers l'Europe, à travers la Yougoslavie, puis l'Italie, dans un pays qui n'existait pas encore et qui était en train de conquérir son indépendance, et qui est Israël. Voilà, Israël était déjà un lieu où beaucoup de Juifs étaient allés avant-guerre, dans l'espoir de créer là-bas une sorte de communauté où ils seraient à l'abri des persécutions, et puis avec un idéal socialiste très fort aussi. Et puis après-guerre, Israël est devenu clairement un refuge pour les Juifs qui n'avaient plus où retourner, où aller en Europe. Et donc, Aaron Appelfeld a été emmené avec d'autres orphelins en Israël. Il avait 13 ans et demi, très exactement. Et il est arrivé là-bas, dans ce pays où il n'avait jamais mis les pieds, si différent du pays qu'il avait vu naître. Pas de montagne, pas de neige, mais du sable, un ciel très bleu, un soleil qui brûlait. Et un pays en construction, et un pays où on parlait hébreu, alors que sa langue maternelle était l'allemand, et que pendant son enfance et pendant la guerre, il avait aussi un petit peu appris des rudiments de roumain, d'ukrainien et de russe, mais il ne parlait pas hébreu. Et donc là, il a fait face au deuxième grand bouleversement de sa vie, qui a été d'apprendre une nouvelle langue à 13 ans et demi, une langue qui n'était pas celle de ses parents, une langue qui ne contenait rien de son passé, de son histoire. Et il a fait le pari d'écrire dans cette langue. Il s'est beaucoup battu, parce qu'apprendre une langue à l'âge de 13 ans et demi et parvenir à écrire dans cette langue, c'est parvenir à conquérir toutes les subtilités d'une langue. Une langue, c'est pas juste... J'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, justement, l'enseignement des langues. Une langue, c'est pas juste des règles de grammaire et des mots. Une langue, c'est des échos dans les mots. Par exemple, il y a certains mots qui résonnent parce qu'ils existent dans une comptine, parce qu'ils existent dans un... Si en français, on dit liberté, égalité, fraternité... Alors, on sait que c'est la devise du pays, donc comme ça, une affirmation de l'État. Mais quelqu'un qui n'est pas français, il apprend liberté, égalité, fraternité, pour lui, ce sont juste des mots. C'est pas une proclamation, c'est pas une devise. Si quelqu'un, dans une discussion, dit « le jour de gloire est arrivé », s'il ne connaît pas l'hymne national, il ne sait pas la résonance qu'il peut y avoir. Et donc, une langue, c'est aussi toutes ces résonances, tous ces échos. Et l'hébreu a beaucoup d'échos parce que c'est une langue très ancienne. C'est la langue dans laquelle a été écrite la Bible, ce qu'on appelle aussi l'Ancien Testament. Et donc, il a appris cette langue et il a senti que la perte qui était la sienne et qui était donc la perte de sa ville, de sa maison, de ses parents, était devenue aussi la perte de sa langue. La perte en partie de sa mémoire, la perte en fait de tout ce qu'on lui avait donné au début de sa vie et qui n'existait plus. Et pour lutter contre cette disparition, y compris la disparition de sa langue maternelle d'ailleurs, il a commencé à écrire. Et il a commencé à écrire non pas pour témoigner, comme par exemple Primo Levi, parce qu'il n'était pas en mesure de témoigner. Un enfant ne peut pas témoigner, d'ailleurs même devant un tribunal. Un enfant enfin, dans certaines circonstances, dans certaines enquêtes, on interroge les enfants. Mais un enfant, ce n'est pas un témoin qui est cité à la barre. Justement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas les clés, il ne peut pas analyser ce qui s'est passé et il n'a même pas la conscience qui lui permet de l'exprimer. Et donc, son mouvement vers l'écriture, ça a été un mouvement pour faire exister, pour retrouver ce qu'il avait perdu et faire exister ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire, c'est par l'écriture. L'écriture n'est pas là pour raconter le drame de la guerre, en général, pas du tout. Et là, on arrive à l'autre raison pour laquelle il se méfiait des mots, parce que dans ces années-là, beaucoup de gens, en tout cas en Israël, écrivent sur la guerre, sur la déportation, sur le camp, sur le ghetto, sur la résistance aussi, sur leur souffrance. Et ce qu'Aaron Appelfeld ressent quand il lit ces textes, qui ne sont pas des textes d'écrivains, mais des textes de témoins, il sent que les gens, pour parler de la catastrophe, alignent des mots qui essaient de dire l'horreur. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, pas seulement les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Si on veut parler de quelque chose de brutal qui est... des attentats en France, par exemple, quand ils se sont produits, ou même d'un accident de la route. On dira, c'était terrible, c'était affreux, c'était horrible. Ce sont souvent ces adjectifs qui reviennent. Et puis, à l'opposé, quand quelque chose de beau existe, arrive, surgit, on dit, c'était merveilleux, c'est tellement beau, c'était merveilleux, c'était tellement beau. Et le langage trouve difficilement les images pour aller plus loin que ça, et pour aller plus loin que cette succession d'adjectifs. Et Aaron Appelfeld a forgé une écriture au fil du temps qui lui permet d'appliquer quelque chose qu'il disait. Il disait, sur une blessure, il faut poser des mots légers comme un bandage. Il ne faut pas ensevelir, il ne faut pas écraser la blessure avec des mots qui vont être... des phrases qui vont être trop lourdes, trop chargées, qui vont dire, voilà, regarde, ça, c'est l'horreur, ça, c'est l'horreur, ça, c'est l'horreur. Non, il faut au contraire poser des mots très doux et faire résonner, en quelque sorte, le silence ou faire résonner les mots. Et pour ça, je vous donne un exemple d'un livre qui s'appelle « Le garçon qui voulait dormir » et qui relate, on va dire... l'histoire d'un garçon qui est un peu le double d'Aaron Appelfeld, mais qui a quelques années de plus que lui. C'est un garçon qui, après-guerre, a besoin de dormir en permanence. Il a besoin de se réfugier dans le sommeil. Ça, c'est quelque chose que connaissent les gens qui ont vécu une grande peine, une grande tristesse. Il se réfugie dans le sommeil. Lui se réfugie dans le sommeil parce que c'est dans le sommeil qu'il rêve, et il rêve de ses parents. Et les rêves lui permettent en quelque sorte, de retrouver ses parents et de continuer un dialogue avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'il dort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il dort comme ça sur tout le chemin d'Ukraine jusqu'à l'Italie, en passant par la Yougoslavie. Et un jour, quelqu'un lui apporte un plateau avec un repas en Italie, à Naples. Et c'est quelqu'un qui n'essaie pas de lui arracher les mots, de lui poser des questions... qui pense que donner un plateau repas, c'est peut-être plus important que lui poser des questions. Ça l'adorera peut-être un peu plus. Et il lui pose ce plateau en lui disant « bon appétit ». Et là, le narrateur dit « c'était la première fois que j'entendais ces mots depuis le début de la guerre ». Pour moi, ces deux phrases sont typiques du génie d'Aaron Appelfeld, qui n'est pas un génie qui cherche à séduire, qui n'est pas un génie qui cherche à séduire son lecteur. On peut séduire un lecteur avec des phrases qui vont nous donner le vertige, des phrases qui vont nous impressionner. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est une littérature qui n'a pas de valeur, pas du tout. Et par ailleurs, tout à l'heure, je disais que les parents d'Aaron Appelfeld lisaient... « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. C'est un peu l'anti, c'est pas l'antithèse, mais le style de Marcel Proust est à l'opposé du style d'Aaron Appelfeld. Donc, et Aaron Appelfeld aimait beaucoup Proust. Donc, ce n'est pas une critique d'une littérature qui serait peut-être plus séduisante, mais c'est l'affirmation pour lui d'un rapport qu'il a à sa littérature, à son écriture, à son art, aux mots et à son sujet, si j'ose dire, à ses personnages. C'est aller vers une forme de simplicité qui fait résonner chaque mot. Et dans ces deux phrases, bon appétit. Bon appétit, c'est très simple. On tente, voilà, si un écrivain, voilà, je vous dis, bon, bah, c'est un écrivain. Si je vous dis juste, c'est un écrivain qui a écrit bon appétit dans son livre, vous allez dire, bon, d'accord. Dans ce cas, nous sommes tous écrivains. On dit tous bon appétit, peut-être 3 fois par jour. Sauf que là, il y a tout de suite après cette phrase. C'était la première fois que j'entendais ces mots depuis le début de la guerre. Et là, pour qui sait tendre l'oreille, comme quand il y a une musique très fine, on entend ce que ça signifie. C'est-à-dire que pendant 5 ans, personne n'a dit bon appétit. Personne n'a dit bon appétit parce qu'il n'y avait pas à manger, parce que les gens se taisaient beaucoup pendant la guerre, mais surtout parce qu'ils avaient faim et que donc bon appétit n'avait plus de sens. En général, on dit bon appétit quand on est autour d'un bon repas, quand on est confortablement installé ou quand on pique-nique, mais certainement pas dans un camp ou un ghetto. Et donc là, ce qu'il fait surgir aussi, c'est comment ces mots d'avant, parce qu'il y a chez Aaron Appelfeld quelque chose de très sensible au temps et qui peut nous parler, je crois, à nous aujourd'hui. C'est ce qu'il a exprimé avant même que nous, on ait traversé d'autres événements. C'est une sorte de monde d'avant et de monde d'après. Le monde d'avant, c'est le monde d'avant-guerre. Le monde d'après, c'est le monde d'après-guerre. Avec un grand désarroi qui était que finalement, il n'y avait pas vraiment de monde d'après. C'est-à-dire que l'après-guerre, ce n'est pas un monde dans lequel les gens avaient fondamentalement changé. Ce n'est pas un monde dans lequel les gens étaient devenus meilleurs. C'est pas un monde dans lequel... Et il y a eu cette croyance longtemps que les épreuves pouvaient, en quelque sorte, purifier l'être humain, lui donner la conscience de la vie, du bien, du mal, et l'entraîner vers une vie plus juste à l'égard de son prochain. C'est pas ce qui s'est produit. Et ce qui est très fort, justement, chez Aaron Appelfeld, c'est que quand je parle de son humanisme dans son écriture, c'est pas un humanisme qui se veut naïf et émerveillé. Vous savez, parfois, le mot humanisme nous semble uniquement aller du côté du bien. Parce qu'on se dit, être humaniste, c'est bien. Être humaniste, c'est quoi ? C'est aimer les hommes. Donc, aimer les êtres humains, on va dire. Pas les hommes, mais les êtres humains. Donc on se dit, c'est bien, voilà, c'est ça l'humanisme, on aime les êtres humains, et ça s'arrête là. Et c'est pour ça que l'humanisme est aussi considéré par d'autres personnes comme une sorte d'attitude qu'on peut moquer. Parce que les anti-humanistes diront, bah, enfin, c'est des bêtises, on ne peut pas aimer tout le monde, et c'est naïf de croire ça. Non, chez Aaron Appelfeld, l'humanisme, c'est pour lui... l'application de ce qu'il a pensé après la guerre, il s'est dit qu'il fallait restaurer la confiance en l'être humain. Que c'était ça la mission après-guerre. Qu'après ces années où quelqu'un pouvait subitement tuer quelqu'un d'autre, sans aucune raison, sans aucune explication, où quelqu'un pouvait arracher un morceau de pain à quelqu'un qui mangeait et qui avait faim, mais voilà, lui arracher un morceau de pain parce qu'il voulait se nourrir, où les gens se sont piétinés, où les gens ont pu parfois aussi s'entraider, évidemment, mais où ils ont pu se comporter comme jamais ils ne s'étaient comportés les uns envers les autres. Après ce temps-là, pour lui, il fallait restituer la confiance en l'homme. Et pour lui, restituer cette confiance-là, ça passait d'abord par... essayer d'avoir un regard, je reviens au regard que j'ai évoqué tout à l'heure d'Aaron, passer par un regard sur les hommes qui est d'abord un regard d'observation. qui n'est pas un regard de jugement, qui n'est pas un regard qui se laisse impressionner par le statut social, la richesse, le pouvoir. Parce que le statut social, la richesse et le pouvoir, lui, enfant, a vu qu'on pouvait les perdre. Il a vu, dans la guerre, des gens qui avaient perdu, des gens qui avaient des appartements somptueux, y compris peut-être ses parents. Ses parents n'étaient pas des gens pauvres, ils avaient des domestiques, ils avaient un bel appartement. Il a vu des gens, pas seulement ses parents, d'autres gens, qui avaient le pouvoir, qui étaient professeurs d'université ou qui travaillaient dans les institutions locales, des hommes politiques même. Des entrepreneurs, des gens qui avaient des usines, qui possédaient des terres. Il a vu ces gens tout perdre. Il a vu des gens qui étaient de grands intellectuels et qui avaient une confiance absolue dans la littérature, dans la musique, dans la philosophie, et qui, tout à coup, au camp, ne comprenaient plus ce qui se passait autour d'eux. Parce que cette réalité-là ne correspondait absolument pas à tout ce en quoi ils croyaient. Et donc, il a vu ces gens tout perdre. Et il a vu aussi des gens qui... et ça, je pense qu'il le jugeait quand même un petit peu, qui estimaient que le pouvoir et les apparences comptaient plus que tout. Mais lui, pendant la guerre, il a bien vu que c'était pas ça qui comptait plus que tout. Que derrière les apparences, il y avait toujours une personne qui avait été un enfant et qui était devenue un adulte avec ses failles, ses faiblesses, ses peurs, son désir de se montrer fort, peut-être, pour surmonter quelque chose, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il voyait dans la personne qui avait en face de lui, il me disait d'ailleurs ça très souvent, la personne qui avait reçu de l'amour. Il reconnaissait ça. Parfois, il voyait quelqu'un, il me disait, regarde, lui ou elle a reçu beaucoup d'amour de ses parents. Et pour lui, c'était quelque chose qu'on peut voir sur le visage. Un visage exprime... parfois, vous avez des gens qui sont en apparence très calmes, mais quelque chose dans leur visage exprime une tension, une nervosité très contenue. Et c'est tout ça qu'il a appris à regarder. Et il a appris à regarder aussi en dehors des classes sociales, parce que pendant la guerre, encore une fois, c'est pas forcément par des gens riches qu'il a été sauvé, pas du tout. C'est parfois par des gens extrêmement simple ou pauvre, pas forcément lettré, pas forcément puissant. Et tout pour lui, restituer la confiance en l'homme et parler de l'homme, de l'être humain, c'est donc retourner au cœur des gens, au cœur des êtres. L'un des aspects importants dans cette écriture humaniste, d'ailleurs, c'est que dans les romans d'Aaron Appelfeld, il n'y a jamais de description physique de ses héros ou de ses héroïnes. On ne sait pas s'ils sont blonds, bruns, s'ils ont les yeux bleus, verts, marrons. On ne sait pas s'ils sont habillés d'une manière élégante ou pas. Non, il est décrit par leurs gestes, leurs attitudes, parfois un détail sur la taille quand même, c'est important pour lui, si quelqu'un est costaud ou frêle. Voilà, la corpulence, ça oui, parce que ça dégage quelque chose, effectivement. Quand on voit quelqu'un qui mesure 1m90 et qui pèse 100 kilos, on ne ressent pas forcément la même chose que face à quelqu'un qui mesure 1m60 et qui pèse 50 kilos. Et donc, souvent, il y a ça, il y a ce rapport au corps, mais au corps dans sa totalité. Et surtout, il ne nous dira pas que quelqu'un est beau ou laid. Il ne dira jamais ça. Il parlera plutôt des expressions du visage, des yeux qui s'écarquillent, d'une douceur qui va passer, ou d'une inquiétude, ou d'une joie qui traverse le regard. Mais une joie qui traverse le regard, ça n'indique pas si quelqu'un, selon nos critères à nous, est beau ou laid. Tout le monde peut avoir une joie qui traverse le regard. Et donc, cette façon de regarder les autres, elle a commencé là, pendant la guerre. Elle s'est poursuivie, je pense, en Israël, quand il est arrivé en Israël, dans ce pays qui est en pleine construction, en pleine guerre d'indépendance, où, je ne sais pas à quel point vous connaissez l'histoire d'Israël, mais dans, les, voilà, dans ces années, qui sont les années 47, 48, 49, donc les années de la guerre d'indépendance, il y a en Israël une idéologie très forte qui est celle de créer un État juif, indépendant, fort, où les Juifs ne courberaient plus la tête. Et donc, il y a cette volonté très affirmée d'être des hommes, de labourer la terre, d'être des corps saints, dans des esprits saints, et d'oublier la faiblesse, la persécution, le passé, l'Europe, d'oublier tout ça. Et lui se construit contre ça. Il regarde ces gens qui donnent le sentiment de ne pas avoir de passé, d'être né là et de ne pas savoir ce qui vient de se produire en Europe. Et il se sent un peu en décalage par rapport à eux. Mais il continue de les observer. Et il continue de les observer parce que toute sa vie, et tout au long des 45 livres qu'il a écrits, puisqu'il a publié 45 livres de son vivant, il n'a eu de cesse de dire qu'il n'écrivait pas sur le passé, qu'il n'était pas un écrivain de la Shoah, comme on dit. Et c'est un terme, la Shoah, c'est un mot hébreu qui signifie anéantissement. Mais Aaron Appelfeld n'aimait pas beaucoup l'employer, parce qu'il disait que, en fait, personne ne pouvait dire, ne pouvait en parler, personne ne peut dire ce que ça signifie vraiment, l'extermination de 6 millions de personnes. Que c'est un mot, mais que derrière ce mot, il y a des millions et des millions de destins. Et pas que des destins juifs, d'ailleurs, puisqu'on arrivera bientôt au dernier livre d'Aaron Appelfeld que j'ai traduit, qui n'est pas encore sorti, et dont j'ai envie de vous parler. Mais donc, pour lui, c'était un mot qui voulait dire quelque chose de trop vaste. Mais en réalité, pour dire la réalité, il faudrait être capable de raconter des millions d'histoires. Et même aujourd'hui encore, même si on voulait, sans parler de la guerre forcément, sans parler de la guerre, mais si quelqu'un voulait dire aujourd'hui, voilà, moi j'écris sur la France de 2022. Voilà, c'est mon sujet, la France de 2022. Mais c'est quoi la France de 2022? C'est qui? Est-ce que c'est uniquement, est-ce que c'est la vie politique? Est-ce que c'est ce qui nous parvient par les informations? Ou est-ce que c'est la vie de chacun d'entre vous et d'entre nous? En réalité, la France, ça n'existe pas en soi. C'est-à-dire si aujourd'hui, je ne sais pas, même si on retourne, on va dire, 500 000 ans en arrière, il y avait, voilà, ici, il y avait des arbres, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement, mais ce n'était pas la France, c'était la Terre. Et si demain, on quittait tous la France, ce ne serait plus la France. La France, ce sont des êtres. C'est un lieu aussi, évidemment, et les lieux sont importants dans la définition d'un pays, même s'ils peuvent être détruits. Mais c'est d'abord des vies. Les lieux ne sont rien sans les gens qui y vivent et sans les gens qui les font vivre. Et donc, pour dire la réalité, et de ça, il était extrêmement conscient, pour dire une réalité, il faut aller vers les individus. Et c'est là que son écriture continue d'être humaniste. Elle est humaniste parce que dans tous ses romans, si on prend, je ne sais pas, si je vous lis le début, par exemple, de L'amour soudain, qui est un des premiers romans d'Aaron Appelfeld que j'ai traduit, après Histoire d'une vie, que j'ai traduit, qui sont sortis en 2004. L'amour soudain commence par Ernest venait d'avoir 70 ans. Pour son anniversaire, Iréna prépara un gâteau au fromage qu'elle décora avec des fraises. Joyeux anniversaire, dit-elle en posant le gâteau sur la table. À mon âge, on ne fête plus ce genre de choses, dit-il sans la regarder. Ce n'est pas vrai, répondit-elle. Bon, un dialogue très court, mais on commence par quoi ? Ernest venait d'avoir 70 ans. Le roman Mon père et ma... Si on prend Mon père et ma mère, enfin ça, je vous ai déjà lu le début, donc ça, on peut le laisser pour l'instant. Si on prend La stupeur, justement, qui est le prochain roman qui paraîtra au mois d'avril, il commence ainsi. Lorsque Iréna émergea de son sommeil, il était déjà 8 heures. Des flots de lumière entraient par la fenêtre, et un silence désagréable régnait dans la pièce, comme si la maison avait été abandonnée par ses occupants. Au petit matin, la silhouette agitée de son mari l'avait visitée dans sa léthargie. Fort heureusement, il ne l'avait pas réveillée cette fois. Il était sorti de la maison en claquant la porte, laissant derrière lui l'odeur de sa sueur et un agacement réprimé. Alors vous aurez remarqué que dans les deux extraits que je viens de lire, il y a chaque fois tout de suite le prénom du personnage, Ernest, Irena. On a le prénom et on a aussi une indication sur... là, voilà, c'est l'anniversaire d'Ernest. Ici, Irena se réveille, il y a des flots de lumière. Son mari vient de partir, elle est soulagée. C'est-à-dire que dans tous ces livres, dans Le garçon qui voulait dormir aussi, par exemple, dans tous ces livres, dans tous ces romans, il y a d'emblée un personnage qu'on situe par rapport à un moment dans sa vie. Et c'est pas tonitruant, c'est pas une entrée qui vous dit « Alors attention, tambour, trompette, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. » Non, c'est un visage, même si le visage n'est pas décrit. Une silhouette, un nom. Et c'est là qu'il est, pour moi, profondément humaniste. C'est qu'il va s'attacher dans chaque livre à suivre un ou plusieurs personnages en lui accordant toute son attention, en lui accordant toute sa bienveillance, même si le terme est un peu galvaudé, mais sa bienveillance dans le sens où il regarde les êtres qu'il décrit, à la fois, non pas en les admirant ou en les méprisant, il les regarde tout simplement tels qu'ils sont. Comment ils font face à la question de la vie ? La question de la vie qui se décline chaque jour, qui se décline dans des moments où on nous demande d'être courageux, où on nous demande d'être patient, où on nous demande d'être tenace, où on en demande, ou peut-être on a envie d'être lâche. Comment l'être humain, c'est ça l'humanisme d'Aaron Appelfeld, comment l'être humain fait face à toutes les questions que la vie lui pose en quelque sorte. La vie ne cesse de nous poser des questions. Comment gagner sa vie ? Quel choix on fait ? Quel choix humain on fait ? Quel choix de relation on fait ? Il y a des gens qui vont prendre pour mode relationnel la séduction. On a ça dans certains de ses livres. Un homme ou une femme qui systématiquement essaie de séduire par les mots, par des mimiques. Il y a d'autres pour qui la seule relation possible, c'est celle de la violence ou de l'humiliation. Comme ici, le mari d'Irena, par laquelle je terminerai, et en évoquant d'ailleurs justement les photos qui se sont succédées pendant que je parlais. Je termine par Irena parce que, à plus d'un titre, parce que ce livre donc sort bientôt, et que par le plus grand des hasards, il raconte précisément l'histoire d'Irena, qui est une paysanne ukrainienne, qui a 27 ans, et qui vit dans un village dans les Carpates, près de la ville de Tchernovitz. Et cette jeune femme, est une femme très, très simple. Elle a quitté l'école à l'âge de 11 ans. Elle n'a pas fait d'études. Elle a travaillé au champ. Elle s'est mariée avec Anton, qui lui plaisait bien au départ. Elle ne s'est pas trop posé de questions. Mais qui s'est révélé être un homme extrêmement brutal. Un homme qui peut renverser la table quand la soupe n'est pas chaude, qui peut vouloir coucher avec elle quand elle n'en a pas envie, quand elle lui dit non, après, je souffre, elle lui dit qu'elle souffre de maux de tête, qu'elle ne veut pas ou ne supporte pas. Et pour lui, la question ne se pose pas. S'il a envie de coucher avec elle, il n'y a pas de question à se poser. Et donc, c'est un roman qui, déjà, lorsque moi je l'ai lu et traduit, m'a frappé par une sorte de modernité dans le regard qu'Aaron Appelfeld pose sur ce couple d'une femme qui est terrorisée par son mari et où le mari se comporte avec une violence qu'il considère totalement comme légitime et que tout le monde autour semble considérer comme légitime. Et un matin, Irena, de surcroît d'ailleurs, il faut le dire, ils n'ont pas d'enfants. Dans une société où normalement un couple qui se marie doit avoir des enfants, ils n'ont pas d'enfants, et bien évidemment, à l'époque et dans ce milieu-là, c'est de sa faute, c'est de la faute d'Irena. Personne ne se dit que c'est peut-être du fait de son mari et pas d'elle. Personne ne pense ça. On pense que si un couple n'a pas d'enfant, c'est de la faute de la femme. Et donc, il y a quelque chose de très incroyablement moderne dans ces questions-là, de rapport homme-femme. Et un matin, Irena, donc, quand elle se réveille, elle entend un bruit à travers la fenêtre de l'autre côté, dans son village. Et elle regarde par la fenêtre, elle voit une famille d'épiciers juifs qui habitent à côté, avec deux enfants, un couple et deux enfants, et les voit alignés devant leur maison. Et elle se dit, mais c'est très étrange, les gens ne sont jamais alignés ainsi, sauf à l'école, on demande aux enfants de se mettre en rang. Pourquoi sont-ils alignés ainsi? Et elle s'aperçoit que le gendarme du coin les tient en joue. Il a pointé son arme sur eux et il dit « Ordre des Allemands ». Et pendant deux jours, les ordres vont se succéder. Et évidemment, le sort de ces quatre personnes va empirer. Et Irena, c'est pour ça que ça s'appelle la stupeur, réagit à cela avec presque une sorte de, justement, de candeur enfantine. C'est-à-dire, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi on aligne ces gens devant la maison. Pourquoi ensuite on leur demande de s'agenouiller. Pourquoi ensuite on pille leur maison. On vole tout ce qu'ils ont. Pourquoi ensuite on leur demande de creuser une fosse. Et pourquoi ensuite on les fusille. Toutes ces étapes de l'assassinat de quatre personnes sont décrites pendant le premier tiers du livre à travers le regard d'Irena et avec cette incompréhension qui est en réalité la seule façon de regarder cette scène. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'explication possible. On ne peut pas expliquer. Alors, on peut expliquer qu'historiquement, l'Allemagne vient d'envahir la Roumanie, même si c'est l'Ukraine aujourd'hui. On peut dire, oui, c'est la guerre, donc des gens meurent. Ça, c'est une explication qui va tenir compte de l'histoire. Mais pourquoi, en réalité, un homme tue d'autres personnes? Il n'y a pas d'explication acceptable et surtout accessible à l'entendement. Et donc, c'est cette stupeur qui s'empare d'elle, mais qui aussi... et je terminerai là-dessus peut-être en demandant à Mathieu s'il peut montrer la photo de la paysanne ukrainienne qu'on a, et je vous raconterai où j'ai pris cette photo et comment. Voilà cette photo-là. Il choisit comme témoin du massacre non pas quelqu'un qui est un poète, un intellectuel ou un historien qui va nous dire « voilà ce qui s'est passé ». Non, il choisit le cœur le plus simple, la personne la plus simple, qui devenant témoin de cet assassinat, va quitter son mari, quitter ce lieu et partir sur les routes d'Ukraine pour essayer de convaincre les gens que la seule relation humaine possible, c'est celle de l'amour. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on montre ce visage parce que, pour terminer, je ne sais pas du tout, alors j'ai aucune notion du temps, mais bon, on va dire pour terminer, puis ensuite je vous donnerai la parole pour des questions. Pour terminer, je voudrais vous raconter que quand Aaron Appelfeld est mort en 2018, donc moi j'avais déjà traduit plus d'une dizaine de livres et j'avais côtoyé cet écrivain qui est devenu mondialement connu, avec des livres traduits dans 35 langues, des invitations dans le monde entier. On était très proches, et quand il est mort, j'ai écrit un livre sur lui, sur sa disparition, parce que j'entendais, voilà, j'avais besoin d'entendre sa voix. Je vous ai dit qu'un écrivain, c'est une voix. Et après avoir écrit la première partie de ce livre, j'ai fait quelque chose qui pour moi, était vital à ce moment-là. On était en février 2018 et je regrette vraiment pas aujourd'hui d'avoir pu le faire. J'ai vu arriver la date de son anniversaire. Il est mort début janvier et son anniversaire, c'était le 16 février. Et si vous vous souvenez peut-être, j'ai commencé en disant qu'Aaron Appelfeld répondait à chaque question qu'on lui posait en disant « Je suis né à Tchernovitz en 1932, le 16 février 1932 donc ». Et donc, voyant la date de son anniversaire approcher, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je voulais vous lire. Donc, permettez-moi de vous lire, pour le coup, mon texte et de vous parler de cette photo ensuite. J'ai pris un avion pour Kiev, puis un taxi pour me rendre de l'aéroport à la gare. Vadim, le chauffeur, parlait un anglais plus rudimentaire que le mien. J'ai mis un peu de temps à comprendre sa façon de marquer le temps dans la langue, notamment d'indiquer le passé. Ça donnait des phrases comme « Yesterday, there was problems with Hitler » ou « Yesterday, the communists don't want people pray Jesus ». Ensuite, je suis montée dans un train de nuit qui partait de Kiev vers le sud sous la neige, en trouant le vent qui faisait trembler le wagon. « Nous allons dérailler », me disais-je dans un demi-sommeil. Et les mises en garde du ministère français des Affaires étrangères contre les trains de nuit ukrainiens ricochaient sur les parois du compartiment. Vol, viol, mauvaise rencontre, attaque par des bandes de pillards. Mais je n'avais pas peur. Et ce n'était pas un sentiment d'immunité, au contraire, plutôt celui d'une vulnérabilité enfin tranquille. Nous avons connu des arrêts silencieux en race campagne. J'ai distingué des hêtres serrés les uns contre les autres, accueillant placidement la neige sur leurs branches et semblant prêts à avancer vers moi. J'ai cru mourir de soif tant le compartiment était surchauffé et j'ai piqué la bouteille d'eau destinée à ma voisine qui dormait profondément. Comment y parvenait-elle avec cette soufflerie brûlante sous les couchettes? Et pourquoi, de surcroît, s'était-elle enveloppée dans la couette synthétique fournie aux voyageurs de première classe? C'était une interrogation qui n'avait pas grand intérêt, mais reposait mon esprit. Tandis que, assise en tailleur sur ma couchette, j'écrivais à la lueur de mon téléphone portable. Il fallait 12 heures pour parcourir 560 kilomètres. Il était nécessaire que cela corresponde à une traversée totale de la nuit. Et dans le couloir du wagon où des rideaux beige gaufrés de volutes dorées masquaient les vitres sales, juste devant la porte de mon compartiment, une icône de Jésus, regard doux et mélancolique, barbichette soigneusement taillée, veillait sur nous. Quand j'ai ouvert les yeux, le train filait sur un pont qui enjambait une rivière et je n'ai pas eu besoin de savoir où nous étions pour connaître son nom. Je me suis figée sur ma couchette. Le train s'est arrêté quelques centaines de mètres plus loin, dans un silence d'aube blanche. J'ai vu des gens s'éloigner sur le quai. Ils ressemblaient, derrière la vitre, à des personnages de films en Super 8. Je suis restée immobile sur ma couchette, coude sur les genoux, visage sur les poings, fixant les flocons qui tombaient, attendant peut-être que le train reparte, avec moi seule à son bord. Un contrôleur m'a houspillée en ukrainien, que je ne comprends pas, mais j'ai pourtant compris ce qu'il me disait. Le train était arrivé à son terminus. Qu'est-ce que je foutais là encore? J'ai ramassé mes affaires à la hâte, saisi mon manteau, mon bonnet et mon écharpe d'une main fébrile, tiré ma petite valise de l'autre, mon sac glissé sur mon épaule. J'ai traversé le train désert, comme quelqu'un que l'on a réveillé brutalement, qui sait qu'il doit avancer, mais sans savoir très bien où. Mon visage reflétait sans doute une perplexité un peu stupide. Je me suis cognée plusieurs fois contre les parois du wagon. Je n'étais pas très chic, je pense, à la limite d'un hébétement suspect. Mais qu'importe, personne n'était là pour m'attendre, me voir descendre du train et poser le pied sur le quai couvert d'une neige qui crissait sous mes apprestis. J'ai levé les yeux vers le panneau blanc aux lettres cyrilliques bleues qui se balançaient au-dessus de ma tête. Il était 7h30. Le ciel déversait une lumière gris clair sur moi qui venait de mettre le pied à Tchernivtsi. Oui, Tchernivtsi est le nom de Tchernovitz aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, nous sommes le 16 février 2018. Je suis venue à Tchernovitz pour l'anniversaire d'Aaron. Et le tremblement intérieur, qui n'avait cessé depuis début janvier, m'a quittée brusquement. C'est la ville de tous ses romans, même ceux dans lesquels elle n'apparaît plus. C'est la ville qu'il n'a pas besoin de nommer pour qu'elle existe. Elle est là, enneigée, protectrice. Et dans cette ville, j'ai vu des visages qui me semblaient sortir de ces romans. Et j'ai vu le visage que je vous ai, enfin, qui était montré tout à l'heure de cette paysanne ukrainienne dont je dont je me suis dit qu'elle pouvait être une des héroïnes de ces livres. Je suis vraiment profondément émue et je ne m'y attendais pas, mais dont je me dis aujourd'hui qu'elle peut être aussi Irena, cette paysanne, voilà, l'héroïne de la stupeur, qui se dresse contre l'injustice du mal, de l'assassinat, de la cruauté, sans idéologie, sans théorie, simplement parce que c'est la seule chose possible. Et je me dis que c'est peut-être que les gens que j'ai croisés là-bas et qui sont là-bas aujourd'hui, dans cette ville et dans toute l'Ukraine, sont pour certains des héros que j'ai... Enfin, des héros, oui, on dit des héros, mais des héros aussi en tant que personnages, des gens qu'Aaron Appelfeld m'a appris à aimer et que j'ai appris à aimer en traduisant ses livres, parce que leur humanité n'est pas faite de mots et de grandes déclarations, mais de ce qu'ils font tout simplement et de ce qu'ils choisissent de faire, et donc d'une forme de courage. Et ce courage, c'est pas un courage qui est forcément impressionnant. La vieille dame qu'on a vue tout à l'heure, c'est juste une vieille dame sur laquelle personne ne s'arrête forcément. Mais je sais qu'Aaron Appelfeld, quand il voyait quelqu'un plutôt de fragile. Vous savez, fragile, c'est devenu parfois un terme négatif ou moqueur même dans un langage d'aujourd'hui, et c'est regrettable. Mais il portait attention et il essayait de regarder qui était cette personne, et je pense qu'il aurait regardé cette femme ukrainienne comme moi je l'ai regardée à travers ses yeux, et comme j'espère vous rencontrerez ces personnages à travers les livres qu'on pourra partager. Voilà, merci beaucoup, beaucoup.
Beaucoup Valérie Zenati pour cette conférence absolument passionnante qui nous permet d'avoir un regard tout à fait qui change le regard sur les livres qu'on a pu lire. Moi j'en ai lu un certain nombre et j'avais effectivement pas réalisé que c'était le regard d'un enfant. Je trouve que c'est bien de
enfin, c'est à partir du, à
partir
regard,
du regard d'un enfant.
Oui, et, tout à fait. À partir.
Et en fait, donc, on va pouvoir poser des questions. Moi, j'ai une première question.
Oui.
Je voudrais connaître le rapport de Aaron avec la religion juive, parce qu'il se revendiquait écrivain juif, et il ne parle pas beaucoup de religion, mais on sent une grande spiritualité dans ses livres. Et je voulais
voilà. C'est une question qui appelle une vaste réponse, mais je vais essayer quand même d'être brève. Le rapport qu'Aaron Appelfeld a entretenu à la question religieuse, d'une certaine manière, est passé par le christianisme avant de passer par le judaïsme, dans le sens où, en parallèle en tout cas, mais dans le sens où, comme je le disais, ses parents n'étaient pas pratiquants, ses grands-parents l'étaient. Donc la pratique religieuse, il l'a vue chez ses grands-parents quand il allait chez eux en vacances. Mais la pratique religieuse au quotidien, il a rencontré par le biais des domestiques ukrainiennes qui travaillaient chez ses parents, qui étaient toutes extrêmement pieuses. On a vu tout à l'heure, peut-être vous avez vu défiler la cathédrale de Tchernovitz ou l'église de Tchernovitz. Ce sont des endroits où je suis allée et où je l'imaginais très bien, puisque c'est ainsi que ça se passait. Il allait avec les domestiques qui lui montraient comment prier, qui lui parlaient de Dieu. Et donc il a eu un contact avec la foi par le biais de ces femmes. Extrêmement croyante. Et dans l'extrait que je vous ai lu du Faisceau des Vivants aujourd'hui, on sent bien que la présence de la religion est encore forte en Ukraine. En France, on n'imagine pas un TGV où il y aurait des icônes de Jésus. Il n'y a pas de représentation religieuse dans les espaces publics. Et donc, ça a été d'abord cette relation-là. Ensuite, après-guerre, il a essayé, et donc par ses parents, il n'avait pas eu d'éducation religieuse. Après-guerre, il a essayé de, et il a fait d'ailleurs, d'avoir une connaissance des textes juifs, de la religion juive, parce que c'était aussi pour lui une manière de dire, on a tué les juifs parfois au nom, enfin on a tué les juifs au nom de leur appartenance, qui était majoritairement une appartenance religieuse en réalité. Je vais essayer de comprendre ce ce qu'il y a derrière cette histoire, cette foi, cette pratique. Mais je ne pourrais pas répondre au-delà de ça parce que c'est un rapport, je pense, très intime qu'il avait au fait de croire et de ne pas croire, de pratiquer et de ne pas pratiquer. Ce que je voudrais dire peut-être, qui est une façon, non pas d'estiver la réponse, mais de... d'en donner une qui vous parlera aussi du rapport qu'on peut avoir à une langue telle que l'hébreu, qui chaque langue a son génie, l'hébreu en a un, pour cette liaison. Il y a un mot hébreu que vous connaissez tous, mais vous ne savez pas forcément que c'est de l'hébreu, c'est Amen. Amen, c'est de l'hébreu. Amen, c'est une racine hébraïque qui a donné naissance à plusieurs mots, parce que l'hébreu, c'est une langue comme l'arabe et comme l'araméen, comme des langues chamito-sémitiques. C'est une langue dans laquelle il y a une racine avec trois lettres, et à partir de ces trois lettres, on fait plusieurs mots. Et donc, à partir de la racine Amen, qu'on connaît en français comme faisant partie de la prière, et on a l'impression aussi dans l'expression dire Amen à tout, que Amen, c'est souvent aussi l'expression d'une forme de soumission. Or non, Amen en hébreu, ça a donné naissance à plusieurs mots. Je donne souvent cet exemple parce qu'il est très beau. Au mot foi, la foi, emouna, donc Amen, foi, emouna. Emoun, qui est la confiance, et omanout, qui est l'art. Alors on se dit, quel est le rapport entre l'art, la confiance et la foi ? Je pense que c'est... La réponse d'Aaron Appelfeld, c'est ça. C'est-à-dire que la littérature est le lieu où l'art, la confiance et la foi peuvent se rencontrer et se retrouver. Et c'est dans ces livres qu'on peut trouver ces réponses. Je ne peux pas me permettre de parler de lui, de son rapport personnel à la question de la religion. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, si vous avez quelques questions publiquement, et sinon ensuite on pourra... échanger de manière plus informelle, mais si vous avez une question que vous voulez poser,
oui, Marie,
et qui permettrait de partager la réponse avec tous, je suis là.
T'as pas besoin de ça, si. Oui, moi j'ai commencé les lectures d'Appelfeld par la chambre de Mariana, et j'ai cru dur comme fer que c'était autobiographique. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes lectures d'Appelfeld qu'en fait, tous ces livres étaient une déclinaison fictionnelle.
Exactement.
Et que finalement, ça n'est jamais tout à fait autobiographique.
Jamais.
Même dans Tilly ou
Bien
dans...
Bien sûr.
Les... Et peut-être à la fin, dans Histoire de...
D'une vie.
Et l'histoire de son père et de sa mère, là, la toute dernière, oui. Où il raconte les dernières vacances passées avec ses parents au bord du bouc.
Oui.
Mais sinon, on a été un peu leurré au début.
Alors, leurré, parce que, par exemple, si vous prenez La chambre de Mariana, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est caché dans une maison close où travaille une prostituée, plusieurs prostituées, et elle le cache dans un réduit. Mais si vous prenez la chambre de Mariana, le petit garçon va avoir 13 ans et s'appelle Hugo. Il n'a pas 10 ans, il ne s'appelle pas Aaron Ervin. Ervin, c'était son premier prénom. Et donc, il n'y a pas de... Et même quand il s'appelle Ervin, comme dans Mon père et ma mère, le petit garçon s'appelle Ervin, et c'était donc le premier prénom d'Aaron Appelfeld, même quand il a le même prénom, quand on lui demande son âge, il dit 10 ans et 6 mois, à peu près, ou 10 ans et 7 mois. Ce n'est pas l'âge d'Aaron Appelfeld au moment des faits. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans chacun de ses livres, l'indication d'un décalage, toujours un décalage, qui signifie à la fois, oui, je pars de quelque chose qui m'a traversé à un moment, que j'ai peut-être vécu, ou dont je me souviens, ou que je reconstitue, mais c'est un roman, ce n'est pas une autobiographie. Parce que l'autobiographie, pour lui, était impossible, étant donné que la mémoire oublie plus qu'elle ne se souvient. On ne peut pas témoigner d'une vie, selon lui, encore une fois.
Très bien. D'autres questions ?
Merci. Alors, il y a une deuxième question. Là, il y a une main qui se lève ici au deuxième rang. Et puis...
Oui, une question sur l'apprentissage de cette nouvelle langue de l'hébreu. Vous avez dit que c'était un apprentissage qui avait été ardu pour cet enfant qui arrivait. Et j'avais une question sur sa langue natale. Est-ce qu'il l'a conservée ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Donc, sa langue maternelle était l'allemand, parce que même si, quand il est né, Tchernovitz était en Roumanie, ses parents, eux, étaient nés dans un milieu germanophone et parlaient allemand, et lui parlait en allemand. Mais comme Kafka, par exemple, parlait allemand, alors qu'il vivait en Tchécoslovaquie, c'était l'Empire... les survivances de l'Empire austro-hongrois. Et donc, cet allemand-là, il l'a conservé et... Il parlait allemand parfois avec des gens. Je l'ai entendu parler allemand avec des gens qui parlaient allemand. Et moi, je ne le parle pas, mais lui-même me disait que c'était un allemand très daté, un allemand des années 30 et plutôt relativement enfantin. Relativement, c'est pas une langue qu'il a cultivée, même mais c'était une langue à la fois à laquelle il était très attaché et qui lui était très douloureuse, puisque l'allemand était la langue de sa mère. Et des assassins de sa mère.
Allez. Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous tous. Merci.